Eh bien, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous parler donc de l'héritage littéraire de Dracula. J'aurais souhaité évidemment parler de l'héritage de Dracula tout court, mais ça aurait inclus le cinéma, et ça nous aurait emmené très très loin, hein, parce que le cinéma est peut-être plus riche encore que l'apport littéraire du roman. Alors, le thème du vampire en littérature, tout comme au cinéma, n'aurait sans doute pas eu l'essor prodigieux qu'on lui connaît aujourd'hui si Bram Stoker avait publié son Dracula en 1897. Alors, contrairement à une idée parfois reçue, que j'ai entendue prononcer ça et là, Dracula n'est pas le premier roman sur le vampire, hein, le tout premier récit. En prose sur le vampire, c'est de Polidori, et c'est en 1819, hein, donc ce qui veut aussi dire qu'il y a une très grande distance entre le premier récit de vampire et Dracula. Et il faut dire que pendant le 19e siècle, il y a eu énormément de nouvelles, c'est surtout des nouvelles, quelques romans sur le thème du vampire. Je pense en particulier à La morte amoureuse de Gautier, qui est chef-d'œuvre absolu. Je pense au Carmilla de Le Fanu et de bien d'autres récits de ce genre. Mais c'est Dracula qui a créé véritablement le mythe moderne. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui pour parler de Dracula et de Bram Stoker, c'est grâce à ce roman. C'est vraiment ce roman qui a été la première pierre dans ce mythe moderne qui, à l'heure actuelle, connaît un succès absolument formidable. Je pense en particulier à la série Twilight, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler au moment de la discussion. Donc c'est le personnage inspiré du roman de Stoker qui a servi de modèle à la plupart des vampires du XXe siècle, et c'est donc de cet héritage que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai pas du cinéma, car compte tenu du temps qui m'est imparti, cela m'entraînerait beaucoup trop loin. Je me contenterai d'évoquer, évidemment, quelques-uns des films clés qui ont permis le développement du mythe, mais je parlerai surtout des romans et des nouvelles. Donc, je me contenterai d'évoquer quelques-unes des centaines de romans et de nouvelles qui ont été plus ou moins inspirés du Dracula de Stoker. Là aussi, je ne pourrais pas être totalement exhaustif parce qu'on y serait encore à 8h du soir à parler de tous ces romans et de toutes ces nouvelles, dont beaucoup d'ailleurs n'ont pas une très grande valeur littéraire, hein, il faut le dire. Alors, l'héritage littéraire de Bram Stoker peut se subdiviser en deux catégories très distinctes. On trouve en effet d'une part tous les romans qui ont été plus ou moins inspirés par Dracula du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, il y en a beaucoup, il y en a des milliers. Et d'autre part, les romans et les nouvelles qui font revivre le personnage de Dracula et qui l'entraînent vers de nouvelles aventures. Parce que dans le roman, Bram Stoker nous dit que Dracula s'est volatilisé en poussière et donc il n'existe plus. Mais la littérature du XXe siècle l'a fait revivre bien souvent en utilisant des subterfuges plus ou moins habiles dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors je vais commencer par parler des romans et des nouvelles qui ont été influencés par Dracula, et il y en a beaucoup. Alors dès sa publication en 1897, le roman de Stoker a inspiré des nouvelles, en particulier en Grande-Bretagne. C'est surtout en Grande-Bretagne que l'élan a été d'abord fait. Les vampires qui sont représentés sont comme Dracula, des étrangers qui habitent dans des châteaux isolés et qui ont un statut aristocratique. On leur donne volontiers le titre de comte et de comtesse, hein, ce qui est tout à fait normal, comme la comtesse Sarah dans The Tomb of Sarah de Loring en 1900, ou le comte Magnus de la Gardie dans Count Magnus de M.R. James en 1904. Aux États-Unis, c'est essentiellement grâce au cinéma que le personnage de Dracula est devenu populaire. Après la sortie du Dracula de Todd Browning en 1929, des dizaines d'histoires de vampires ont été publiées dans ce qu'on appelle les pulps. Les pulps, c'était des magazines à bon marché qui étaient faits à partir de papier de mauvaise qualité, donc d'où le surnom de pulps. Et c'est dans ces pulps que se développe toute cette littérature où l'on voit des personnages qui ne s'appellent pas Dracula, mais qui ressemblent comme des frères jumeaux aux personnages de Stoker. Alors, certaines de ces nouvelles utilisent le nom de Dracula dans leur titre sans même évoquer le personnage. Le personnage est totalement absent, mais c'est une espèce de procédé de marketing. Dracula, ça fait vendre. Alors, par exemple, dans Another Dracula, c'est-à-dire un autre Dracula, de Ralph Millen Farley, publié en 1930, le personnage principal n'est absolument pas Dracula, mais un certain Pierre Larousse, qui n'a rien à voir avec le dictionnaire, et que l'on prend à tort pour un vampire. C'est même pas un vrai vampire. Même remarque pour la nouvelle de Ruston Shields, Little Miss Dracula, en 1938, dont l'héroïne vampire n'a aucun lien de parenté avec le conte, mais, une fois de plus, le nom de Dracula fait vendre et attire immédiatement l'attention. Les protagonistes de la plupart des nouvelles américaines et anglaises de cette époque, inspirés du héros de Stoker, ont de préférence des noms roumains, slaves ou germaniques, comme, alors je vous donne quelques exemples, hein, le baron Alexis Ziska dans The Vampire de Sidney Horler en 1930, le baron Franz von Kralitz dans The Secret of Kralitz de Henry Kuttner en 1936, ou encore le vampire Ludwig von Kaldenstein dans The Vampire of Kaldenstein en 1938 de Frederick Coles. Tous ces aristocrates vampires, au nom étranger, sont dépeints comme des personnages maléfiques, à l'instar de Dracula, et ils reçoivent toujours, à la fin du récit, le châtiment qu'ils méritent. C'est donc très moral, comme l'était le roman de Stoker. Ils se situent aux antipodes des vampires contemporains qui vous sont sans doute plus familiers, comme Lestat de Lioncourt, le personnage préféré d'Anne Rice, ou encore Deadwood Cullen, le héros de Twilight. Pour le public américain de l'entre-deux-guerres, Dracula et ses semblables symbolisaient tout ce qu'il détestait. Dans une période de crise économique, il faut pas oublier que le Dracula de Todd Browning, le film de Todd Browning, Dracula, est sorti en 1930, c'est-à-dire un an après l'effondrement des cours de Wall Street, donc en pleine crise économique. Donc, dans une période de crise économique, et nous sommes bien placés pour savoir ce que c'est à l'heure actuelle, et de chômage, les étrangers sont souvent des boucs émissaires très commodes. Si tout va mal, c'est la faute des étrangers. Et donc, l'accent hongrois de Bela Lugosi, l'interprète de Dracula au cinéma, était, aux yeux des Américains, une circonstance aggravante à cette époque, et ce n'est pas un hasard si le film de Todd Browning est sorti donc un an après la chute de Wall Street. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu le film en version originale, mais on entendait par exemple Bela Lugosi dire « I never drink blood »,« wine »,« I never drink wine ». Donc, les personnages Dracula représentent pour les Américains ce qu'il y a de plus détestable à l'époque. Hein. Donc, ils symbolisent aussi deux périls qui menacent la Pax Americana, à savoir le fascisme venu d'Allemagne et d'Italie et le communisme venu de Russie. Donc, c'est certainement pas un hasard si beaucoup des vampires de cette époque ont des noms allemands ou russes. Il est intéressant de rappeler que lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, on a distribué gratuitement des exemplaires de Dracula en livre de poche aux soldats américains qui partaient combattre en Europe pour, en quelque sorte, stimuler leur ardeur guerrière. Donc, aller sur le front, dans le Pacifique, comme en Europe, eh bien, c'était tuer Dracula. Lorsque Cette conception est d'ailleurs prolongée pendant la période de la guerre froide, où cette fois-ci, les vampires étaient souvent assimilés à des envahisseurs venus d'Union soviétique. Donc c'était la cinquième colonne qui venait menacer notre l'ordre mondial et qui, donc le Dracula était en quelque sorte, d'ailleurs il venait de Roumanie, et comme la Roumanie était tombée sous le joug soviétique, eh bien c'était tout à fait cette image était tout à fait prégnante. En Europe, le personnage de Dracula était relativement peu connu, en dehors des amateurs de cinéma fantastique qui avaient vu les films de Lugosi. Mais en 1958, grâce à la firme Hammer de Londres, on a donné brusquement une vie nouvelle au personnage grâce au film de Terence Fisher, Le cauchemar de Dracula, avec Christopher Lee. Alors, les films où Christopher Lee a incarné le comte ont inspiré à leur tour des dizaines de romans de vampires, notamment en Allemagne, en Angleterre et à un moindre degré en France. Le vampire, peu à peu, a subi une transformation, ça s'est fait au cours des années. Il est devenu un peu plus humain et beaucoup moins négatif. À la différence de Bela Lugosi, qui avait fait de Dracula un personnage sinistre et inquiétant, Christopher Lee était, aux yeux du public féminin surtout, à la fois élégant et séducteur. Donc c'est véritablement l'image du Don Juan, un peu inquiétant quand même, mais Don Juan malgré tout. Le cinéma des années 70 a donné de nouveaux visages à Dracula. Je suis quand même obligé de parler du cinéma parce qu'on ne peut pas en faire l'économie, hein. Avec des acteurs de plus en plus jeunes et de plus en plus séduisants, comme Louis Jourdan, par exemple, dans Le Comte Dracula, un téléfilm de Philippe Saville en 1978, Frank Langella dans Le Dracula de John Badham en 1979, et à George Hamilton dans Le Vampire de ces Dames, alors le titre est assez révélateur, de Sam Dragotti en 1979. Alors cette représentation de Dracula a eu évidemment une influence dans la littérature. Les nouveaux vampires, bien loin d'être des vieillards aux cheveux blancs, comme dans le roman de Stoker, sont jeunes et beaux, et séduisants. Ils n'incarnent plus systématiquement le mal, et ce qui est important, c'est qu'ils ne craignent même plus les symboles du christianisme. Les hosties consacrées ne leur font rien, la vue d'un crucifix ne les fait pas reculer. Donc il y a une laïcisation, quelque sorte, de l'image de Dracula, et en même temps, Dracula devient de plus en plus humain. Dracula et ses semblables, bien sûr. C'est le cas notamment, cette humanisation, on la trouve dans le cas de trois vampires qui arrivent à Lisbonne, dans Les Vampires de l'Alfama de Pierre Caste en 1975, et surtout de Louis, les deux, de Louis et de Lestat, les deux héros d'Entretien avec un vampire, d'Anne Rice en 1976, ainsi que du comte de Saint-Germain, le sémillant vampire, héros d'une série de 30 romans de Chelsea Quinn Yarbrough, commencé en 1978 et qui continue encore aujourd'hui. Alors, certainement, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, parce que sur la trentaine de romans, deux seulement étaient traduits en français. Anne Rice, en faisant de ces vampires des êtres à la fois attachants, séduisants et pathétiques, hein, il y a aussi cette dimension tragique du personnage, auquel elle donne librement la parole, a inauguré une conception du vampirisme qui est l'exacte antithèse de celle de Bram Stoker. À la fin des années 70, on pouvait penser que le pauvre Dracula était devenu une sorte d'anachronisme, un objet de musée, et qu'il allait disparaître comme bien d'autres personnages ont pu disparaître. C'était sans compter sur le cinéma, qui, une fois de plus, allait de nouveau braquer les feux de la rampe sur lui dans les années 90. Le film de Coppola, tourné en 1992, a donné de Dracula une image totalement nouvelle, faisant de lui un personnage ambivalent, tantôt vieillard maniéré, tantôt jeune dandy, tantôt monstre bestial, tantôt amoureux transi. Donc ces quatre personnages, on les trouve illustrés d'ailleurs physiquement par des représentations très différentes et joués par le même acteur, ce qui est véritablement un exploit. En rajeunissant ainsi le personnage, Coppola l'a remis à la mode et l'a rendu conforme au nouveau canon de l'esthétique vampirique. Le film a suscité une abondante littérature sur laquelle je reviendrai dans la seconde partie de cet exposé. Aujourd'hui, alors que nous venons d'entamer la deuxième décennie du XXIe siècle, qu'en est-il de l'héritage de Dracula ? Il est certain que sur le plan cinématographique, cet héritage est toujours vivant. Je crois que l'an dernier, deux films ont paru sur Dracula, dont Dracula 3D de Dario Argento, si j'ai bonne mémoire. Donc Dracula, ça marche très bien au cinéma, ça continue à marcher très bien au cinéma. Le personnage, en littérature en revanche, les vampires façon Dracula ne font plus vraiment recette, ils sont plus vraiment au goût du jour. Avec la véritable explosion que constitue actuellement ce qu'on appelle la bitlit, les vampires appartiennent au monde moderne. Ils vivent dans les grandes cités, ils conduisent des voitures de sport, ils utilisent des portables, ils adorent le rock, ils sont devenus souvent très sympathiques, voire totalement inoffensifs. On peut se demander si Edward Cullen, qui ne boit plus de sang humain, qui ne craint plus la lumière du jour, qui n'a pas une once de méchanceté, on peut se demander si c'est encore un vampire. Moi, personnellement, j'en doute. Dans cette littérature lénifiante et aseptisée, je vais peut-être m'attirer vos foudres, mais dans cette littérature lénifiante et aseptisée qui plaît surtout aux adolescents, excusez-moi, il y en a quelques-uns parmi nous, il n'y a plus de place pour les véritables seigneurs de la nuit, seigneurs avec un A, bien sûr, les cruels prédateurs que nous aimions tant. Pourtant, Dracula, seule exception à la règle, survit contre vent et marée, car il y a encore des auteurs qui le font revivre dans des nouvelles aventures. Et ce sera là ma transition vers la deuxième partie de cet exposé, c'est-à-dire les romans et les nouvelles qui font revivre Dracula. Alors, en dehors du roman de Stoker, publié en 1897, constamment réédité et traduit dans les principales langues du monde entier, et de l'invité Dracula, nouvelle publiée à titre posthume en 1914 par la veuve de l'auteur, le personnage de Dracula n'a pas été réutilisé par d'autres auteurs pendant les premières décennies du XXe siècle. Il faut en effet attendre 1943 pour que paraisse sous la plume de l'Américain Manly Wade Wellman une nouvelle intitulée « The Devil is not mocked », traduite en français sous le titre de « On ne raille pas le diable », où, alors le comte est remis au goût du jour, le comte extermine une compagnie d'officiers nazis. Avant ce texte, à ma connaissance, le seul récit mettant Dracula en scène, qui ne soit pas dû à la plume de Stoker, est un roman, Kassigli Voivoda, je ne garantis pas la prononciation, qui est un roman turc publié en 1928 par un certain Ali Riga Seyfi, et qui n'est autre qu'une adaptation pirate de Dracula qui se passe à Istanbul et non plus à Londres. Cette étrange éclipse du personnage de Stoker, parce qu'entre 1897 et 1943, il s'est quand même passé beaucoup de temps, cette étrange éclipse du personnage de Stoker en littérature est d'autant plus surprenante que Dracula est extrêmement populaire aux États-Unis grâce aux pièces de théâtre et surtout grâce aux nombreux films tournés à Hollywood pendant l'entre-deux-guerres. Alors, il y a une explication, c'est que après la mort de l'auteur en 1912, sa veuve Florence était naturellement détentrice des droits d'auteur du roman, et si elle n'avait pas réagi à la publication du roman turc, en revanche, dont elle n'avait probablement pas eu connaissance, en revanche, lorsque le cinéaste allemand Friedrich Murnau avait, sans demander son avis, adapté pour l'écran le roman de Stoker sous le titre de Nosferatu, Eh bien, Florence Stoker avait intenté un procès à la firme berlinoise Prana Films, qui avait produit le film. Elle voulait faire interdire le film, et elle a réussi. Les droits d'adaptation, on a ordonné la destruction du film. Fort heureusement, pour nous, amateurs, quelques copies ont échappé au massacre, et maintenant on peut revoir en version masterisée, qui plus est, le film de Murnau, qui est véritablement un chef-d'œuvre du cinéma vampire. Les droits d'adaptation à l'écran ont cessé de faire problème lorsque Florence Stoker les a vendus à Todd Browning en 1930. En revanche, en littérature, elle était toujours propriétaire des droits, et ce n'est qu'après sa mort en 1937 que le personnage de Dracula est entré dans le domaine public. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait donc plus d'obstacle légal pour faire revivre Dracula. Pourtant, dans les rares nouvelles qu'il met en scène dans les toutes premières décennies, Dracula n'est pas mentionné sous son nom. On l'appelle simplement le comte, comme dans Bois mon sang de Richard Matheson en 1951 ou dans Funérailles du même auteur. On dit le comte, on ne dit pas Dracula. Ce n'est qu'après la sortie du film de Terence Fisher, Le cauchemar de Dracula, en 1958, avec Christopher Lee, que le personnage apparaît désormais sous son nom dans un grand nombre de romans. Alors, je n'insisterai pas, évidemment, sur les romans qui ne sont que des novélisations de films, et je passerai très vite sur les romans qui comportent le nom de Dracula dans leur titre, sans avoir vraiment de rapport avec le personnage, comme par exemple The Dracula Project d'Alan Scott en 1971, qui est en fait un roman de science-fiction sur la guerre bactériologique et qui n'a absolument rien à voir avec le personnage de Stoker. Ou encore Les enfants de Dracula de Richard Lotz en 1981, qui met en scène des enfants sauvages vivant au cœur de Manhattan et qui ne sont pas vraiment des vampires. Parmi les romans qui font vraiment revivre Dracula, certains reprennent purement et simplement l'intrigue du roman de Stoker et la réécrivent en la modifiant, soit pour leur donner une tonalité érotique, sentimentale ou humoristique, soit pour adapter le roman au public des jeunes lecteurs, parce que la jeunesse est intéressée aussi par le personnage de Dracula. Alors, la première réécriture érotique de Dracula date de 1970. Elle s'intitule « The Adult Version of Dracula », la version adulte de Dracula, publiée par l'Américain Al Cantor en 1970. D'autres romans de ce genre suivront, comme « Le Dracula d'Aramente Knight » en 1993, ou encore « L'autre Dracula » de Tony Mark en 1997, qui a une forte tonalité homosexuelle. D'autres romanciers ont mis l'accent sur l'intrigue sentimentale supposée entre Dracula et Mina et ont réécrit le roman de Stoker dans ce sens, comme Nancy Kilpatrick dans son « Dracula, an Eternal Love Story »,« Dracula, une histoire d'amour éternelle » en 1998. Certains auteurs ont repris l'histoire de Dracula telle qu'elle est contée par Stoker sur un mode parodique, comme Fred Seberhagen dans Les Confessions de Dracula en 1975. Seberhagen part du postulat selon lequel Dracula n'a pas été éliminé par le coup de poignard de Quincy Morris parce qu'il a eu le temps, au dernier moment, de se changer en brouillard. Donc, tout le monde croit qu'il s'est volatilisé en poussière. Non, il s'est métamorphosé en brouillard et il a donc échappé à la mort. Donc, il revient à notre époque. Et il décide de rétablir la vérité sur les faits rapportés par Stoker, et il s'en prend, et il prend un contrepoint ironique, souvent très amusant, par exemple dans la scène où les trois femmes de Dracula vont s'apprêter à dévorer un bébé vivant, eh bien on apprend que ce n'est pas un bébé, mais que c'est un petit cochon. Hein. Donc il y a des tas de petits détails comme ça qui font que Seberhagen prend un contrepoint humoristique au roman de Stoker. D'autres romans constituent ce qu'on appelle aujourd'hui des préquels au roman de Stoker, en expliquant comment Vlad Tsepes, Vlad Dracula, le voïvode du XVe siècle, est devenu le conte vampire décrit par Stoker. Dans le premier d'entre eux, Les archives des Dracula, de Raymond Rudolph en 1971, on explique comment Vade l'Empaleur s'est réincarné au XIXe siècle dans le corps, c'est un peu tarabiscoté comme explication, dans le corps d'un jeune étudiant allemand, Steffen Braim, qui avait le tort de trop s'intéresser aux sciences occultes. Méfiez-vous des sciences occultes. Dans Dracula My Love, en 1980, Peter Tremaine nous explique que Vlad Tepes a trouvé dans les papyrus de ses ancêtres égyptiens, parce qu'il y a des ancêtres égyptiens, paraît-il, le secret de la vie éternelle. À la suite d'une erreur fatale dans l'application de la formule magique, il est condamné à vivre éternellement la nuit, à condition de s'alimenter exclusivement de sang humain. Dans Pacte avec un vampire de Jean Calogridis en 1944, on opte pour une explication faustienne. Après avoir conclu un pacte avec le diable, Vlad Tepes a obtenu l'immortalité sous la forme d'un vampire, à condition qu'il livre l'âme du fils aîné de chaque génération de ses descendants. Ce n'est pas très gentil. Pour d'autres auteurs, comme Gail Kimberley dans Dracula Began en 1976, Asa Drake dans Christom Kisses en 1981, et Earl Lee dans Dracula en 1994, Vlad est devenu vampire à la suite d'une malédiction prononcée par une gitane. À l'opposé de ces préquels, ont paru de très nombreux romans qui n'ont plus rien à voir avec l'intrigue de Dracula et qui constituent des suites aux romans. Ressuscité à notre époque, le conte vampire connaît toutes sortes d'aventures dont il est le héros. On a vu ainsi paraître des séries de romans, la première d'entre elles commencée en 1973 et qui comporte de 9 volumes, et de Robert Lowry. Dans le premier volume, Dracula Returns, le retour de Dracula, le criminologue paraplégique Damien Harmon ramène clandestinement aux États-Unis le squelette de Dracula qu'il a dérobé en Roumanie. Il redonne vie au vampire en retirant le pieu qui était fixé dans la cage thoracique, mais il implante à proximité de son cœur une aiguille mue par télécommande qui peut l'anéantir à tout moment. Donc c'est pratique, il a Dracula à ses ordres, mais il peut l'éliminer à tout moment. Alors, c'est pas très sérieux, bien entendu, mais il y a eu 9 romans comme ça. L'autre série, Dracula devient malgré lui l'esclave docile de Harmon, et il peut utiliser ses pouvoirs surhumains pour lutter contre les forces du mal, donc il lutte contre les éléments de la pègre, etc. Enfin, il devient une espèce de surhomme. L'autre série est celle de Fred Saberhagen, dont le premier roman est Les Confessions de Dracula, dont j'ai déjà parlé. La série comporte 10 volumes, dont le dernier en date est A Coldness in the Blood, publié en 2002. Saberhagen abandonne le ton parodique du premier roman et il fait revivre Dracula dans toutes sortes d'aventures où il combat les forces du mal. Après avoir aidé Sherlock Holmes à résoudre une enquête criminelle, Dracula quitte l'Angleterre pour s'installer aux États-Unis et, où sous divers pseudonymes, il entreprend une carrière de détective, donc il devient tout à fait sympathique. En dehors de ces deux séries, il faut encore mentionner les trilogies de Peter Tremaine en 1977-1980, de Jean Calogridis en 1994-1996, et surtout, ce que je vous recommande très fortement, l'excellente tétralogie de Kim Newman, qui commence par Anno Dracula, qui est en vente ici, Anno Dracula en 1992, comporte donc Anno Dracula, Le Baron Rouge Chant en 1995, Le Jugement des Larmes en 1998 et Andy Warhol's Dracula en 1999, qui n'a pas été encore traduit en français, mais qui va l'être incessamment. Dans cette série humoristique, Newman imagine que Dracula revient à Londres pour se venger et il épouse la reine Victoria, carrément. Il devient prince consort et il dirige la Grande-Bretagne d'une main de fer. Il fait empaler ceux qui lui résistent sur les murs de la tour de Londres. Dans les 2 volumes suivants, Dracula, qui a été chassé d'Angleterre, dirige l'armée allemande dans les 2 guerres mondiales. Une autre trilogie a été annoncée à grand renfort de publicité en 2008 sous la plume de Dacre Stoker, le petit-neveu du père de Dracula, et de Jan Holt. Le premier volume est paru en 2009 sous le titre de Dracula the Undead, en français Dracula l'Immortel. Il serait 25 ans après les faits rapportés par Stoker, Dracula revient à Londres où il combat la comtesse Bathory, un peu tiré par les cheveux. Les deux romans suivants n'ont jamais été publiés, on les attend toujours. À ma connaissance, ça avait été pourtant annoncé comme une trilogie. Je me contenterai dans... Il est impossible d'énumérer tous les romans et nouvelles ayant Dracula pour protagoniste, car il y en a des dizaines et des dizaines. Je me contenterai d'en citer quelques-uns, comme Paris Vampire de Claude Klotz en 1974 et In Dracula Memoriam de Gaston Compère, dans le registre du comique, dans celui de la science-fiction The Dracula Caper de Simon Hawke en 1988, où le conte vampire n'est qu'un robot perfectionné. Et Dracula Unbound de Brian Aldiss, où Dracula se déplace à volonté dans le passé et dans l'avenir grâce à un train qui sert à voyager dans le temps. Dracula tombe amoureux dans Dracula My Love de Peter Tremain en 1980, dans Un amour de Dracula de Fred Saberhagen en 1980, et plus récemment dans Dracula My Love de Cyrie James, paru en 2010. Il a des relations érotiques avec les autres personnages du roman dans L'autre Dracula de Tony Mark, 1997, auquel l'auteur a donné une suite, L'autre Dracula contre l'Ordre Noir de la Golden Dawn, en 2011. Dracula combat les nazis et assassine même Hitler dans The Bargain de John Ruddy, en 1990. Il est l'éminence grise de Ceausescu dans Les Fils des Ténèbres de Dan Simmons en 1992. Donc, comme on peut en juger, le personnage est décliné de façon très diverse. C'était un peu une auberge espagnole à laquelle chacun apporte ce qu'il veut. D'autres romans, depuis, ont été consacrés aux autres personnages de Dracula de Stoker, comme Van Helsing, Mina Harker et Renfield. Alors, le temps me manque, bien sûr. Je vais bientôt terminer. Pour aborder l'immense domaine de la littérature enfantine, où Dracula se taille véritablement la part du lion. En Angleterre, des livres illustrés didactiques destinés aux tout-petits, aux enfants qui apprennent à lire, racontent l'enfance de Dracula. On voit Dracula aller à l'école, Dracula partir en vacances, enfin il fait des tas de choses que font tous les enfants normalement. En France, je citerai entre autres quelques romans destiné aux jeunes avec des titres tout à fait significatifs comme Dracula contre le petit chaperon rouge de Jean-Pierre Cuisinier en 1985, Je m'appelle Dracula d'Olivier Cohen en 1993. Pour les mêmes raisons, je pourrais m'étendre sur le domaine de la bande dessinée où, grâce aux éditions Marvel, le conte vampire a fait une nouvelle carrière aux États-Unis dans les magazines Tomb of Dracula et Dracula Lives, à partir de 1972. En France, je citerai quelques très beaux albums, comme le Dracula d'Hippolyte, en deux volumes, en 2003-2004, ainsi que Dracula, le mythe raconté par Bram Stoker, en 2006, et Dracula, le prince Valak, en 2007, de François-Sylvie Pauly et de Pascal Crossi. Alors, je vais enfin conclure. Pour conclure, je soulignerai un paradoxe concernant l'héritage de Stoker. Si le modèle qu'il nous a légué est devenu un peu ringard au début de ce 21e siècle, Dracula, en revanche, connaît toujours les faveurs du public. Aujourd'hui, après Anne Rice et la Bitlit, on n'écrit plus guère d'histoires de vampires se déroulant dans des châteaux isolés des Carpates, mais le roman de Stoker et son personnage principal sont toujours d'actualité. De 2000 à 2012, en dehors des récentes rééditions du Dracula de Stoker, il y en a pratiquement chaque année, j'ai répertorié pas moins de 32 romans directement inspirés de lui, et je suis sans doute en dessous de la vérité. J'en ai trouvé 32, mais il y en a peut-être 50. Hein. 17 sont consacrés à Dracula lui-même, 5 à Van Helsing, 2 à Renfield et 1 à Mina Harker et un autre à Jonathan Harker, auquel il faut ajouter l'invité de Dracula de François-Sylvie Pauly, qui met en scène Carmilla et 4 romans de Marta Acosta qui se déroulent dans un lieu très improbable qui s'appelle la Villa Dracula. Cela montre que le roman de Stoker a toujours un énorme impact dans l'imaginaire contemporain et cela durera probablement tant que l'on publiera des romans. Dracula n'est pas mort. Merci. Alors si vous avez des questions ou des remarques ou même des contradictions, elles sont bienvenues.
Vous avez parlé d'un roman de Matheson qui s'appelle...
D'un roman de...
De Richard Matheson.
Oui.
Qui s'appelle...
Ah non, c'est pas un roman, hein, c'est une nouvelle.
Ah,
hein.
C'est
Funérailles. Oui. Funérailles. C'est d'ailleurs très très amusant, hein, parce que c'est un vent... C'est le comte Dracula, dont on ne dit pas le nom, hein, on l'appelle le comte, qui fête sa mise en bière avec ses amis. Hein, donc, au lieu d'être une cérémonie où tout le monde pleure, c'est une cérémonie où on boit du champagne, on s'amuse, on s'éclate.
Moi, je voulais surtout faire, en fait, une petite remarque et puis aussi une réflexion, ainsi qu'une donnée, une info, que vous connaissez peut-être déjà. Bon, déjà, la petite remarque, l'histoire là, d'une adaptation pirate turque, c'est assez ironique, étant donné que les Turcs ont été les ennemis farouches de Vlad Tepes, ce qui est un con. Je sais aussi, par un reportage sur Bela Lugosi, qu'il a été aussi ministre sous le régime de Béla Kun, bolchevique hongrois. Oui. Il a été ministre, je crois, artistique. Il a été dirigeant du syndicat des auteurs de théâtre. Et c'est un peu, justement, on avait dit que justement Dracula représentait la menace communiste aux États-Unis, et justement Bela Lugosi comble l'ironie, justement, communiste sous Bela Kun. Et puis aussi, alors la réflexion qui n'a rien à voir, c'est qu'au temps du 16e, 17e et 18e siècle, surtout 18e siècle où il y a eu les épidémies, où les vampires étaient de classe sociale pauvre, paysan, et qui était le pire cauchemar des populations, à la fin de ce 18e siècle, commençait déjà cette littérature romantique qui représentait le vampire comme une créature fabuleuse et érotique et tout ça. Finalement, on jette la pierre à Twilight, comme quoi c'est de la merde, mais pour finir, il y avait déjà la graine avait déjà été semée en ce fin du 18e siècle, alors qu'on était en... On ouvrait encore les tombeaux pour planter des pieux dans les cœurs.
Oui, alors moi je voudrais dire d'abord que moi je me garderai de dire que Twilight c'est de la merde, hein, parce que en fait, bon, moi j'ai modérément aimé le premier roman, les trois derniers me sont tombés des bras, mais bon, surtout le dernier, le quatrième, là, bon. Mais cela dit, vous avez raison, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un retour au romantisme initial, hein, c'est-à-dire que le personnage de Lord Raven, qui était le premier vampire de Polidori, c'était un séducteur devant lequel toutes les femmes tombaient en pamoison, hein. De même que à l'époque, les vampires féminins, c'était des femmes fatales qui procédaient par séduction, hein. Donc il y a un retour. Ce que je reprocherais peut-être à Twilight, c'est cette espèce de volonté d'aseptiser, si vous voulez, le thème du vampire. C'est-à-dire de faire que le vampire soit absolument gentil. Ça, c'est pas romantique. Hein. C'est plutôt une inspiration que... Vous savez que l'auteur est... Je n'ai rien contre les mormons, hein, mais vous savez que l'auteur est mormone, hein, elle-même, et donc ça correspond tout à fait à son idéologie. Hein. Pas d'amour avant le mariage, pas de... Alors, on connaît... Donc, je pense qu'effectivement, il y a un retour au romantisme initial qui a donné naissance au vampire. Mais ce que je reprocherais, en revanche, c'est qu'on a voulu absolument édulcorer. Parce que vous savez peut-être que Twilight, par exemple, a été édité dans par une maison d'édition destinée à la jeunesse. Donc il fallait que ce soit un genre de lecture qui ne puisse pas choquer les très jeunes lecteurs. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est tellement édulcoré.
En plus, on aura peut-être un mormon comme président des États-Unis d'ici peu de temps.
Ah. Alors, personnellement, on n'entre pas dans ce genre de considération, mais personnellement, je ne le souhaite pas.
Personne ne le souhaite.
Et je n'engage que moi, bien sûr. Autre question ou autre remarque ?
On peut remercier Jean Marigny pour son intervention sur le dessin de Dracula. On va faire une petite pause.